bien. Nous allons pouvoir passer à la discussion. Donc, si certains camarades dans la salle souhaitent prendre la parole, vous pouvez vous signaler. Si des camarades interviennent au nom d'une organisation, merci de le préciser et puis de faire attention à la longueur des interventions, de ne pas dépasser en gros 3 minutes. Allez-y.
Je vois pas moi.
Là.
Oui. Attends. Là, il y a gauche. Quelqu'un à gauche. Allez, il y a quelqu'un là-bas. Là, vas-y. Vas-y. Puis apparemment, il y a quelqu'un là-bas, mais je vois rien. Vas-y.
Alors déjà, bonjour. Alors j'avais une question par rapport à l'unification du Maghreb. Il y a aussi une valeur sociale qui est très très présente dans les pays du Maghreb et depuis beaucoup de temps quand même, c'est par rapport au patriotisme. Et est-ce que vous pensez que le patriotisme de ces populations pourrait être un frein ou un obstacle à l'unification des différents États du Maghreb ?
Il y avait quelqu'un d'autre là-bas ? C'est ça ? Vas-y.
Ah oui, d'accord. Donc, tout d'abord, un grand merci pour cet exposé qui était très clair. J'ai une question à un moment donné. Tu as parlé de l'Algérie, la décennie noire, et tu as dit ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils, en parlant de la population qui est entre les barbus d'un côté et l'armée de l'autre. Or, j'ai toujours entendu parler de guerre civile. Donc, je voulais savoir... qu'est-ce que tu en es par ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre les civils. Voilà.
D'autres ? Il y a quelqu'un là-bas. Oui.
Du coup, bonjour. Du coup, je suis affilié au Parti Basse Marocain, militant baassiste. Et j'aimerais vous poser la question, du coup, de vu que vous prenez l'international prolétarien, que pensez-vous, on va dire, des partis qui pourraient aider, en tout cas, l'unification des pays maghrébins, mais en même temps qui pourraient aussi défendre des valeurs socialistes, notamment ceux du Parti Basse et de l'idéologie de Michel Aflaq.
Vas-y, vas-y.
Oui, bonjour Sabrina. J'aurais une question sur la Tunisie. Vous avez parlé du départ du président Ben Ali et de la mise en place d'un processus constitutionnaliste. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur la procédure qui s'est mise en place ? Est-ce que le peuple a été associé ? Est-ce que ça a duré longtemps ou ça a été une phase très rapide et puis on a eu la montée d'un dirigeant qui est arrivé juste derrière ? Voilà.
Vas-y.
Merci, bonjour. Ils nous ont toujours appris à l'école en Algérie que la présence française en 1830 est due à la fameuse histoire de l'éventail. Bon, par contre, on ne dit pas qu'en 1827, après la chute, durant la guerre de Navarine, après la chute de la flotte navale, on ne parle pas, est-ce que la France a profité de la chute de la flotte navale pour être présente en Algérie, ou bien c'est causé par réellement cette histoire d'éventail ? Merci.
Pas d'autres. Bon, je vais laisser la camarade répondre. Ah. Un dernier, peut-être devant.
Oui, en 1848, il y avait la Cache-Rivière qui était révoltée contre la bourgeoisie en juin 1848, a été déportée en Algérie. Et ce n'était pas une occasion pour la Cache-Rivière algérienne et la Cache-Rivière française de se révolter déjà là contre la propre bourgeoisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je voudrais bien avoir ça utile comme histoire. Merci.
Bon, eh bien, je vais essayer de répondre. Je vais y aller chronologiquement. Je vais partir de l'éventail. Bon, j'ai envie de dire l'éventail, c'était du vent, hein. Comme argument. C'était un prétexte. En réalité, tous les pays d'Afrique du Nord, eh ben, il y avait une concurrence déjà entre les pays européens pour asseoir des positions. Des positions dans cette région. Donc c'était un prétexte. Et en plus, ça venait après un endettement de l'État. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'État algérien, c'était le dé d'Alger qui avait prêté de l'argent auprès de la monarchie. C'était la monarchie à l'époque française. Donc il y avait un litige. Bon, ben, l'occasion de régler ce litige, ça a été l'occasion d'un rapport de force. Donc c'est ça qui caractérise la colonisation de la France en Algérie. Alors c'est vrai que les buts de la colonisation en 1830, souvent on dit la France elle est allée là-bas, on ne savait pas pourquoi. Ben si, ils savaient pourquoi, très, très bien pourquoi. De toute façon, la plupart du temps, ils colonisent, ils vont dans un endroit, parce que de toute façon, si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est les rivalités entre les États qui les poussent. Voilà. Donc voilà pour cette époque. Je vais terminer et puis après éventuellement on verra, parce que sinon donc je ne vais pas faire un développement sur la colonisation d'Algérie, ça serait trop long. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que ça n'a pas été facile, cette colonisation. Ça a été une guerre, hein, où le nombre de soldats, où l'armée française quelque part, eh ben, elle était aux avant-postes. Ah. Ça ne plaît pas à l'éclairagiste. Je continue. Donc, en 1848, donc là on est plusieurs années après 1830, ben effectivement ça s'est poursuivi. Et en 1848, après avoir conquis des territoires, eh bien, l'Algérie, ça va devenir une destination pour des tas de gens. Bon, déjà les officiers, pour eux, ça a été l'occasion de faire carrière. Je vous conseille de lire un livre qui s'appelle L'honneur de Saint-Arnaud. C'est vraiment très intéressant, écrit par François Maspero, qui raconte les motivations d'aller en Algérie pour défendre sa carrière politique. Et au passage, à travers un certain nombre de correspondances, on découvre l'ampleur des massacres et on découvre à quel point ça a été quand même pas simple pour la France de coloniser, parce qu'il y a une résistance. Et quelque part, ça a été une colonisation destructrice. Voilà, donc je vous recommande cette lecture. Et effectivement, c'est devenu un statut particulier avec le fait que c'était des départements. Et ils ont envoyé en Algérie les 48 arts, comme on les appelait, c'est-à-dire ceux qui avaient fait la révolution, qui s'étaient insurgés sur les barricades. Hein. Et ils les ont envoyés là-bas pour soit assécher des marais, soit pour les éloigner de la France, en quelque sorte. Et l'idée de « est-ce que oui, ça aurait pas été possible qu'il y ait une alliance entre les Français, les ouvriers français et puis les Algériens ?» Eh ben, en tout cas, ça ne s'est pas forcément passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de lien. Hein. Bon, déjà, la classe ouvrière algérienne, elle n'existait pas autant qu'en France. Déjà, même en France, la classe ouvrière, elle était quand même très particulière. Ce n'était pas des grandes usines, c'était des artisans. Bon, la question que tu poses, elle s'est posée aussi en 1871, au moment de la Commune de Paris, puisqu'il y a eu la Commune de Paris. Il faut savoir qu'il y avait la Commune d'Alger aussi, ça existait. Mais la Commune d'Alger, elle était l'œuvre d'Européens qui étaient à Alger. Ils se sont pas posé le problème de l'indépendance du pays ou de la répression coloniale qui existait, puisque en même temps qu'il y avait la Commune d'Alger, en même temps il y avait une révolte en Kabylie, très importante, qui a été réprimée et dont la plupart des insurgés ont été envoyés à la suite de cette révolte en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, la colonisation d'Algérie, elle a conduit à des hommes qui sont partis de France, qui sont allés en Algérie, d'autres qui sont partis d'Algérie, qui sont allés en Nouvelle-Calédonie. Donc ça a façonné notre monde actuel. Voilà. Donc évidemment, cette perspective d'unité des travailleurs ou des classes exploitées plus exactement, parce qu'il n'y a pas que les travailleurs, il y a les petits paysans, il y a les petits commerçants, il y a tout ça, par-delà les frontières, contre leurs propres dirigeants, bah, c'était une perspective défendue par l'international. Et il s'est vraiment posé de manière concrète au moment de la guerre du Rif, ce que je raconte dans l'exposé, c'est-à-dire quand le Parti communiste en France s'est adressé aux travailleurs français, s'est adressé aux dockers, a appelé les soldats qui partaient là-bas à la fraternisation. Donc cette politique-là, oui, c'est, tu as raison, l'unité des travailleurs par-delà les frontières, c'est ça la solution. J'ai entendu une question à propos du patriotisme, si j'ai bien compris. Est-ce que l'unification du Maghreb et le patriotisme, c'est contradictoire ou pas? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les classes opprimées du Maghreb, elles habitaient dans un espace où elles circulaient librement. Ça, il faut bien en avoir conscience. Même la fameuse monarchie marocaine qui se vante d'être historique sur des siècles, en réalité, c'était beaucoup plus petit que ça. Et les gens, il y avait des frontières qui ont été tracées, par exemple, par la colonisation française, quand il y a eu les trois départements. Mais les gens, ils circulaient de la Tunisie au Maroc, du Maroc à l'Algérie, de l'Algérie, etc. Et même, c'était avec l'Empire ottoman, il y avait des échanges. Il n'y avait pas c'était pas écrit d'avance, c'était pas automatique que surgissent des États qui forgent un nationalisme qui opposent les peuples les uns aux autres. Loin de là, parce qu'en réalité, quand les peuples se sont réveillés pour leur indépendance, ça voulait dire quoi être indépendant? Ça voulait dire en finir avec l'oppression coloniale. Qu'est-ce que ça voulait dire en finir avec l'oppression coloniale? Ça veut dire mettre fin à la misère, mettre fin à l'injustice, mettre fin au mépris, pas simplement mettre fin au mépris des colons. Il y avait aussi le mépris des féodaux au Maroc, il y avait aussi le mépris des féodaux, des notables en Tunisie. Donc les classes sociales, elles existaient partout. Donc il y avait possibilité, par-delà justement la position géographique, d'unifier le sentiment des exploités de tout le Maghreb. Ça, c'était une réalité. Et la preuve, c'est que quand l'Algérie, quand la Tunisie et le Maroc sont devenus indépendants, aussi bien en Tunisie et au Maroc, eh bien, il y avait un sentiment de solidarité profond qui a obligé le gouvernement, le roi du Maroc et Bourguiba, à accueillir sur son propre sol l'armée de libération nationale. Parce qu'ils ne l'auraient pas fait. Ils se seraient heurtés à leur propre population. Non seulement ils se seraient heurtés à leur propre population, mais même au Maroc, après l'indépendance, il y a eu une armée de libération marocaine, il y a eu une rébellion pour continuer, pour dire tant que les Algériens sont pas, tant que l'indépendance n'est pas totale, on continue le combat. Et là, le fils d'Hassan II, avec la complicité de la France, ils ont écrasé ça. Donc voilà la base réelle des sentiments de solidarité qui existaient entre les classes opprimées de tout le Maghreb. Elle existait et elle offrait des possibilités de créer, oui, un ensemble plus vaste, ça c'est sûr. Parce que le patriotisme, le nationalisme, c'est après l'indépendance. Déjà, au cours de les indépendances, les partis nationalistes, ils l'ont cultivé pour les raisons que j'ai expliquées, parce qu'ils voulaient avoir leur fief. C'était des seigneurs, en fait. Enfin, c'était des seigneurs des temps modernes. Ils voulaient se tailler un territoire avec leur appareil. C'était ça, leur souci. Et au Maroc et en Tunisie, très rapidement, ils se sont mis d'accord avec l'ancienne puissance coloniale. Ils n'ont pas dépassé les structures héritées de la colonisation. C'est ça le problème qu'on peut leur reprocher. Ils n'ont pas été plus loin, ils se sont coulés dedans. Alors ce patriotisme, au bout de 8 ans de guerre, pour l'indépendance en Algérie, évidemment qu'il était fort. Évidemment que le régime il s'est appuyé dessus, parce qu'après 8 ans de massacre, d'exaction de l'armée française, l'armée française, elle l'a fabriquée quelque part par sa politique. Donc ça, on se retrouve avec ça, parce qu'aujourd'hui, les traditions politiques qui existent dans les classes opprimées, en Algérie en particulier, c'est une tradition héritée de cette lutte d'indépendance. Voilà. Quand il y a eu le Irak en 2019, la population, elle a dit quoi? On veut une seconde indépendance. C'était la référence. Ça reste la référence. Mais comment arriver à cette indépendance? Qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper aujourd'hui? Déjà, c'était le problème au moment de l'indépendance. Mais aujourd'hui, s'émanciper. Le mur auquel se heurtent aujourd'hui les classes opprimées au Maghreb et ailleurs, c'est ça. C'est le mur de la richesse. C'est le mur d'appareil d'État. C'est le mur de l'oppression capitaliste. Et les États qui se sont bâtis, finalement, eh bien, ils ont rempli leur mission, ils ont servi la bourgeoisie. Quand j'ai dit que c'est elle la grande gagnante de l'indépendance, c'est les classes dominantes, c'est la classe bourgeoise marocaine, tunisienne, algérienne, qui, elle, a ramassé le pactole, contrôle la rente pétrolière en Algérie, contrôle les ressources du phosphate et puis des exploitations de tourisme, tout ce qu'on veut, mais en laissant sa part à l'impérialisme. Voilà, c'est ça. Ils sont devenus les relais, les rouages de l'ordre impérialiste dans leur région. Ça, c'est important de comprendre parce que, justement, le changement, il ne peut pas venir si on n'a pas ça comme perspective. Ça ne veut pas dire que toutes les révoltes, elles sont porteuses de révolutions qui sont à même d'abattre l'impérialisme. Évidemment que non. Évidemment que le Irak en 2019 en Algérie, il n'était pas porteur de ça. Mais ce qui est important, c'est que dans ces révoltes, dans ces mouvements, existent des militants, des partis qui transmettent cet héritage politique. L'héritage politique des peuples du Maghreb, depuis six décennies, il est riche. Ils ont été confrontés aux luttes d'indépendance nationale. Ils ont été confrontés aux luttes pour essayer d'arriver à des systèmes démocratiques, pour en finir avec la corruption, la dictature dans les années 2010, 2011, 2019. Mais quelle leçon en tirent-ils? Quel parti leur dit, voilà, la solution, c'est les classes exploitées qui en sont porteuses? Parce que qu'est-ce qu'on a dit aux classes exploitées? Tous les partis qui ont surgi après 2011 en Tunisie, ça me permet de répondre à la question sur la transition démocratique. La transition démocratique en Tunisie, elle est intéressante. C'est important pour nous de réfléchir là-dessus. Parce que c'est un mouvement qui a été profond. C'est de là qu'est parti les printemps arabes. On nous l'a présenté en modèle. On nous disait l'exception tunisienne, il y a la démocratie. Regardez le Yémen, la Syrie, partout, c'est la guerre. Mais là, au moins, c'est la démocratie. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? Oui, pendant 3 ans, ils se sont étripés, le camp moderniste, sur des articles de loi. Bon. Certains avaient leur importance, par exemple sur le statut des femmes. Ok, ça c'est vrai. Mais concrètement, une constitution où les travailleurs ne peuvent pas donner leur avis, où ils ne s'emparent pas des sujets, en ayant en tête qu'il n'y a rien qui garantit les intérêts des travailleurs, aucune constitution ne peut garantir les intérêts des travailleurs s'ils ne défendent pas eux-mêmes leurs intérêts. Parce que, oui, les classes exploitées qui attendaient après la Constitution, qui ont été attentistes, qui espéraient le changement, qui ont attendu 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 3 ans pour prendre une Constitution qui n'a pas remis en cause la domination des patrons, qui n'a résolu aucun problème. Kaïd Saïd, il est arrivé en 2019, 2020, la Constitution, boum, mouchoir, corbeille, voilà. En 2 temps, 3 mouvements, la Constitution, elle était détruite. Bon, parce qu'il n'y avait personne pour la défendre parmi la population tunisienne. Pourquoi? Parce que cette constitution ne défendait pas la population. Cette constitution l'a laissée dans la misère. Alors comment les travailleurs, ils peuvent avoir une constitution qui les sort de la misère? Comment? C'est ça le problème. Eh bien c'est à eux de la faire. C'est pas aux islamistes qui leur dit la solution c'est l'islam. C'est pas aux démocrates qui leur dit c'est les démocrates. La solution c'est les travailleurs qui la portent. En disant, ben nous, dans la Constitution, on veut discuter de la propriété des usines, on veut discuter de l'ouverture de livres de compte, on veut discuter de ce qui nous concerne, de la terre, des problèmes des paysans. On veut justement que les grands groupes capitalistes, ils aient plus leur mot à dire. Il faut que les travailleurs ils fassent irruption et qu'ils remettent en cause la domination concrète de la bourgeoisie et des grands groupes capitalistes. Une Constitution, c'est ça pour les travailleurs. Alors, je me rends compte qu'il y a une question que j'ai, enfin, il y a 2 questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vais essayer d'être plus brève. C'est sur le parti au Maroc. Alors, je ne connais pas ce parti. Hein, je n'ai pas toute la panoplie, tout l'éventail. Mais ce que je sais, c'est que justement toutes ces expériences politiques, eh bien, tous les militants qui veulent y réfléchir et qui veulent faire en sorte que les travailleurs s'emparent de ces expériences, en tirent les conclusions, hein, qu'il faut que les travailleurs, c'est eux la solution, c'est eux qui doivent prendre le pouvoir, déjà à leur échelle, en dirigeant leur propre lutte, en mettant avant leurs propres revendications, en les décidant, en se faisant pas voler leur mobilisation par des démocrates, des islamistes, des politiciens qui pensent qu'à faire carrière. Hein, et que, voilà, parce que tous ces politiciens, pour eux, les pauvres, c'est une masse de manœuvre. On s'en sert pour arriver à nos fins, à leurs fins. Ben, les travailleurs, il faut qu'ils gardent le contrôle de leur lutte. Ben, s'il y a des militants au Maroc, en Algérie, en Tunisie et partout, et ici en France, et ben, c'est ça le chemin qu'il faut suivre. Donc après, il y avait une question sur la guerre civile, guerre contre les civils. Bon, c'est une insistance. On peut, tous ceux qui ont dit guerre civile, ce que je veux dire, c'est que la population pendant la décennie noire en Algérie, elle a vraiment été prise en étau. Voilà. Et elle a subi la terreur de part et d'autre. Hein, l'armée a commis des massacres. Les groupes islamistes ont commis des massacres. Et la population, elle a été prise en étau et ça a été très difficile. Ça a été aussi un facteur, je tiens à le dire, hein, cette période de terrorisme, ça a été aussi un facteur d'ordre social. Voilà, ça a été un facteur d'ordre social, parce que pendant cette décennie, eh ben, il y a eu quand même des plans d'ajustement structurel, il y a eu des privatisations, il y a eu des licenciements, et même pendant cette période, ben, les travailleurs se sont battus contre les licenciements, ils ont essayé de se défendre. Voilà. Oui, donc ben, moi j'appelle à ce que tous les travailleurs du Maghreb et d'ailleurs s'unissent, hein, sur la base de toute cette expérience, de toute cette compréhension, pour avoir une compréhension, pour réfléchir à tout ça, parce que ben, l'avenir il est dans une fédération des peuples à la fois du Maghreb, et puis aussi quand même l'avenir il est aussi dans les liens qu'il peut y avoir entre les pays du Maghreb et ici en France. Parce que je vous l'ai dit en introduction, il y a quelques 10 millions de personnes qui vivent en France, qui sont issus du Maghreb, et c'est évident que si demain, ici en France, les idées qu'on préconise, qu'on aimerait qu'elles soient portées au Maghreb, si nous on les portait, hein, si nous on mettait en avant des revendications, si nous on mettait en avant une constitution des ouvrières, voilà, une constitution ouvrière avec, comme a pu le faire la révolution russe à une époque, eh ben, je peux vous garantir que ça aurait un impact immédiat dans le Maghreb et ailleurs. Ça, c'est sûr. Et ça offrirait des perspectives. Donc, oui, on a une responsabilité ici.
Bien, donc, les camarades, on va s'arrêter là. Donc, si certains souhaitent continuer la discussion, bien sûr, vous pouvez, on peut le faire dehors ou à la table de presse. Le prochain rendez-vous que nous vous donnons, ben, bien sûr, c'est la fête de lutte ouvrière après le 7, 8, 9 juin. Si certains n'ont pas encore leur carte d'entrée, donc elle est encore à 15€ jusqu'au 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la table de presse. Lors de cette fête, il y aura donc bien sûr plusieurs meetings de notre camarade Nathalie Arthaud. Il y aura des débats, il y aura des stands tenus par nos camarades venus d'ailleurs, des concerts, des conférences scientifiques, des présentations de romans, des films. Et puis surtout, c'est 3 jours où on pourra continuer à discuter de ces idées qu'on a envie de défendre dans une ambiance de fraternité. Donc, à bientôt.